Sri Ganjri Nematoro Sri Ganjri Nematoro
Bonjour et bienvenue dans Mille Paroles de l'Humanité, l'émission où chaque témoignage nous rappelle la richesse et la complexité des parcours humains. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile mais essentiel, la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Dans les rues de Tours, une affiche interpelle les passants. L'excision s'arrête avec moi. Protégeons nos filles. Derrière ce message fort, il y a une histoire. Une histoire de courage, de douleur transformée en engagement et d'une femme qui a décidé de briser le silence. Cette femme, c'est Anita Traoré. Depuis plusieurs années, elle se bat pour protéger les filles, accompagner les femmes victimes de mutilations sexuelles et sensibiliser les communautés à une réalité encore trop souvent ignorée. Aujourd'hui, dans Mille Paroles, une humanité, nous allons écouter son histoire, comprendre ces combats et réfléchir ensemble à ce que chacun de nous peut faire pour que ces violences appartiennent un jour au passé. Anita Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Anita, on ne peut pas commencer cette émission sans parler de vous. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, ce qui vous a amené à vous engager dans ce combat?
Alors, je suis originaire de la Guinée. En Guinée, encore aujourd'hui, 97% des femmes ont été victimes de mutilations sexuelles féminines. Autant dire que c'est toute la population féminine guinéenne. Je suis née en Guinée, j'ai grandi à Conakry jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis ensuite après, je suis arrivée rejoindre mon père et mes sœurs en Italie. J'ai un parcours assez atypique puisque je quitte l'Italie assez rapidement lorsque j'arrive dans ce pays totalement inconnu. Et ensuite après, je décide avec mon père, de commun accord avec mon père, de venir en France pour y vivre. Et c'est comme ça que j'atterris à Paris en 2006.
Merci d'avoir tracé un peu brièvement votre parcours. À quel moment avez-vous décidé de transformer votre expérience personnelle en un engagement public?
J'ai décidé en 2014 de créer mon association. Cela paraissait comme une évidence puisque avant même la création et l'idée de la création de l'association, j'accompagnais des personnes dans leur démarche administrative. J'étais déjà engagée dans le milieu associatif et pour avoir été moi-même victime de violences patriarcales, notamment de violences sexuelles, d'attouchements sexuels notamment, et de mutilations sexuelles féminines à l'âge de 8 ans. Ces choses-là faisaient comme une sorte d'écho dans ma tête et j'avais absolument envie de m'engager un peu plus en tout cas. Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer l'association Chance et Protection pour Toutes en 2014 pour être sur le terrain, pour avoir contact avec plus de femmes et de filles et quelque part pour guérir.
Ah oui.
Pour guérir très clairement parce que j'avais cette envie de militer et de prendre la parole aussi. C'est pas toujours évident de prendre la parole en tant que victime. Et aujourd'hui, pour moi, voilà, il me semblait important de pouvoir, à ce moment-là, en 2014, créer mon association et être au plus près des femmes victimes de violences.
En tout cas, c'est vraiment honorable. Et je suis honorée aussi de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Et dites-nous, prendre la parole pour parler d'un sujet aussi intime au début, est-ce que ça a été facile?
Ça n'a pas été du tout facile. Quand on regarde des émissions et des vidéos dans lesquelles je m'exprime entre 2014 et 2018, même un peu après, j'ai beaucoup de mal en fait finalement à m'ouvrir sur ce sujet parce que c'est un sujet très intime. L'excision, c'est quelque chose qui est très tabou. Et puis ben, le corps de la femme, la sexualité, tout ça, ce sont des sujets très tabous. Et donc finalement, j'ai eu beaucoup de mal effectivement à pouvoir en parler, à parler de moi, parler de soi, ce n'est jamais évident. Et ensuite, après, plus on parle, l'exercice devient facile. Et puis, finalement, je me sens aussi légitime de parler de ce sujet-là. Absolument. Parce qu'on a 230 millions de femmes qui sont concernées par ce sujet à travers le monde. On doit parler. Il nous faut parler. On a la possibilité de plus en plus, à travers les réseaux sociaux, de pouvoir prendre la parole et puis bah, finalement d'externaliser tout ce qu'on a subi depuis des années et la parole libère. La parole libère et pour moi c'est une libération de pouvoir prendre la parole.
En tout cas, c'est courageux de votre part. Anita, si on parlait un peu de l'excision en tant que telle, comment comprendre l'excision? Simplement, ce que c'est l'excision?
Alors, l'excision, c'est l'un des types de mutilation sexuelle féminine. C'est pour cette raison-là que nous, on préfère parler de mutilation sexuelle féminine, puisque l'excision est l'un des types de mutilation sexuelle féminine. Effectivement, il y a 4 types de mutilation sexuelle féminine. L'excision est le type le plus répandu, avec 80% des personnes concernées par ce sujet, concernées par ce type de mutilation. Il y a donc la clitodirectomie qui consiste en l'ablation du gland du clitoris. On a ensuite l'excision qui concerne, je l'ai dit tantôt, 80% des personnes concernées par ce fléau. C'est donc l'ablation du gland du clitoris et également des petites lèvres, voire parfois des grandes lèvres. Et on a ensuite après l'infibulation qui consiste au rétrécissement de l'orifice vaginal ou l'accolement des grandes lèvres et des petites lèvres pour empêcher tout rapport sexuel jusqu'au mariage. Donc c'est vraiment le contrôle sur le corps et sur la sexualité de la femme. On parle ensuite du quatrième type qui regroupe tous les autres types en fait de mutilation sexuelle féminine. Ça peut être de percer, de racler la partie intime des femmes, de venir accoler, enfin tous ces types là peuvent être dans le quatrième type. Donc pour résumer, l'excision c'est l'ablation partielle ou totale l'excision c'est l'ablation totale ou partielle de l'organe intime des femmes.
En tout cas, merci pour ces éclaircissements. D'après toi, Anita, pourquoi cette pratique continue d'exister dans certaines sociétés?
Alors, cette pratique continue à exister dans nos sociétés parce que les coutumes ont la peau dure, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est très compliqué, en fait, d'éradiquer un fléau qui date de plusieurs milliers d'années. L'excision continue encore aujourd'hui parce que on ne le traite pas encore. On ne traite pas encore aujourd'hui ces pratiques comme un continuum de violences faites aux femmes. On les traite comme un sujet à part des violences faites aux femmes et aux filles. Or, il faudrait qu'on puisse les traiter, qu'on puisse en parler de manière totalement libre et que ça ne soit pas tabou. Ensuite, il y a aussi un sujet qui concerne des communautés qui ont toujours pratiqué ça. On a beau faire des campagnes d'information et de sensibilisation, tout ça est encore trop fragile, trop compliqué à éradiquer. Il faut aller aux côtés des familles pour parler des conséquences réelles des mutilations sexuelles féminines, impliquer les hommes, les parents, les pères, notamment sur ces sujets-là. Il faut absolument avoir les hommes aux côtés des femmes pour militer. Pour ça, j'entends toujours que l'excision, c'est un sujet de femmes. C'est vrai. Mais il faut absolument, si on veut éradiquer tout ça, il faut absolument impliquer aussi les hommes. Impliquer les hommes et aussi appliquer les lois. Absolument. Plusieurs pays ont ratifié des lois qui ne sont absolument pas appliquées, voire très 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 peu. Et ça, c'est aussi un problème pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines. L'application des lois fait beaucoup défaut, malheureusement.
C'est vraiment dommage. Quand on parle de mutilation, on parle de violence, on sait qu'il y a des conséquences. D'après vous et votre expérience, quelles sont les conséquences physiques et psychologiques de ces personnes qui ont été victimes d'excision?
Alors, pour les personnes qui ont été victimes d'excision, il y a plusieurs conséquences. Il y a d'abord, au moment de l'excision, la douleur, le choc.
Il y a également le traumatisme de la douleur, du moment, de ce qui se passe autour de nous, de toutes ces femmes qui nous demandent voilà, de nous déshabiller. Ça peut effectivement constituer une grave violence et ce côté psychologique qu'on ne prend pas toujours en compte. Mais c'est aussi des douleurs pendant, après les rapports sexuels. Ça peut aussi être des infections à répétition. C'est aussi des complications lors de grossesse et d'accouchement aussi, notamment pour les personnes qui ont subi l'infibulation. Il faut les ouvrir. Parfois, il faut venir couper cette partie-là pour permettre un accouchement sécurisé. C'est aussi toutes ces douleurs-là. Et il y a aussi l'hémorragie aussi qui peut parfois subvenir et le décès, le cas échéant.
Anita, il vous a fallu de la force, il vous a fallu beaucoup de choses. Et dans cette quête de perspective, il y a eu une association qui a été votre outil. Comment est née cette association ?
Alors, la CPPT est née d'une envie de militer plus
c'est
sur le terrain.
C'est quoi la CPPT ?
La CPPT, c'est l'association Chance et Protection pour Toutes que j'ai créée en 2014 à Tours. On intervient notamment auprès des familles chaque année pour informer, sensibiliser et alerter sur ce fléau. On intervient également auprès d'associations, auprès de la PMI, donc la protection maternelle et infantile. On intervient aussi auprès des institutions et des hôpitaux pour informer et sensibiliser toujours sur la question des mutilations sexuelles féminines et des violences faites aux femmes de manière générale.
Anita, aujourd'hui vous faites un accompagnement auprès de ces femmes qui viennent chercher de l'aide auprès de vous. Comment se passe cet accompagnement ?
Alors, c'est un accompagnement global, c'est-à-dire qu'on va recevoir les femmes, on va écouter leurs paroles, ça c'est essentiel d'écouter leurs paroles, pouvoir aussi les accompagner dans leurs démarches administratives et médicales. On fait aussi de l'accompagnement post-opération, la réparation du clitoris, on va aussi accompagner les femmes pour faire leurs courses, pour les aider au quotidien, pour prendre un rendez-vous avec une infirmière qui peut passer à domicile pour pouvoir faire les soins au quotidien. C'est aussi de l'orientation vers d'autres partenaires, notamment la Maison des Femmes de Tours, l'orientation vers des hôpitaux, vers d'autres associations, notamment de prise en charge psychologique. Et puis ensuite après on va pouvoir aussi accompagner sur des démarches sociales et d'orientation professionnelle également.
Okay. Anita, vous venez de la Guinée, vous avez subi cette même violence que vous savez, vous aujourd'hui en âme et conscience, il y a des milliers de femmes qui continuent de subir ces mêmes violences. Est-ce qu'aujourd'hui l'association intervient en Afrique ?
Alors on a une antenne en Guinée depuis 2019 où on met aussi en place des interventions en milieu scolaire. On met également en place des interventions auprès des familles pour échanger sur ce sujet. Et puis, on met aussi en place des interventions en zone rurale afin de dialoguer, d'ouvrir un espace de dialogue pour les filles victimes de ce fléau, mais également pour les familles qui continuent encore à pratiquer l'excision. L'idée, c'est de pouvoir effectivement échanger, dialoguer concernant les conséquences réelles de ces pratiques et de pouvoir ouvrir des possibilités de solutions et de pouvoir permettre aux familles de connaître réellement les conséquences, d'en parler simplement avec toutes ces familles. Mais notre travail consiste également à intervenir dans les collèges et dans les lycées en Guinée, une fois de plus, pour pouvoir parler et prendre la parole et permettre aux personnes concernées également de pouvoir prendre la parole.
D'après tout ce que tu viens de dire, j'ai juste remarqué que tout tourne autour de la communication autour du public. En quoi est-ce important de parler publiquement, de sensibiliser publiquement sur ce sujet ?
C'est important de vulgariser ce sujet parce qu'on n'en parle pas encore assez et qu'on en fait trop un sujet tabou. on en fait un sujet tabou dans nos familles, dans nos communautés, dans les institutions, on en fait un sujet qui doit concerner que nos familles. Mais non, il faut que ça soit un sujet de société. L'excision est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique et en ce sens, il faut qu'on en fasse un sujet commun. Il faut qu'on en fasse un sujet qui concerne à la fois les institutions, les politiques, les communes, les villes. Il faut en parler partout. Et il est important d'en parler dans les familles parce qu'effectivement, une fois que la petite fille est excisée, on la placarde, enfin voilà, on la met à un endroit et c'est terminé. Alors qu'en fait, le fait de pouvoir en parler fait peur aussi aux gens. Le fait qu'on prenne la parole fait peur. On fait peur aux gens qui veulent continuer encore à pratiquer l'excision. Et cette prise de parole est nécessaire. Ça permet en fait d'entendre la parole des victimes. Ça permet de mettre les mots sur des traumatismes et ensuite de pouvoir trouver des solutions vers l'éradication des mutilations sexuelles féminines. C'est essentiel. La prise de parole est essentielle.
Oui, vous l'avez dit, la prise de parole est essentielle. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous intervenez dans des collèges, dans certaines écoles au niveau de la Guinée. Mais face à ces discussions, comment réagissent les élèves face à vos discussions? Est-ce qu'ils participent aux discussions, sachant que c'est un sujet souvent déclaré tabou? Comment ils réagissent? Est-ce qu'eux, ils arrivent à faire des interactions, à parler de ce sujet avec vous lors de ces interventions?
Alors, je trouve que cette nouvelle génération a cette facilité de prendre la parole. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux contribuent énormément justement à permettre aux jeunes de prendre la parole, voilà, de se confier. Et ça, c'est assez simple et facile puisqu'on arrive en tout cas voilà, à faire parler les jeunes, à intéresser les jeunes et à les faire participer aux discussions que nous menons avec eux et elles au sein des établissements. Maintenant, le sujet reste toujours tabou, effectivement. Et on comprend, effectivement, lorsqu'on échange avec ces jeunes et ces étudiants, que souvent, il n'y a que l'excision qui revient. Or, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres types de mutilations sexuelles féminines et toutes les conséquences. Et ces conséquences-là ne sont pas connues de toutes et tous. Lorsqu'on en parle, on a des jeunes garçons, des jeunes hommes notamment, qui nous disent oh, « si je savais que c'était ça, bah, j'aurais protégé davantage ma sœur. J'aurais refusé que ma petite cousine soit excisée. » Et donc, ça réveille les consciences et ça permet aux gens, parfois, de s'engager aussi aux côtés des associations comme la nôtre et de pouvoir aussi, effectivement, sensibiliser à leur niveau, dans leur famille, dans leur communauté, dans leur ville, etc.
Là, vous l'avez dit, il y a des réactions. Par exemple, comme tu viens de dire, un jeune garçon peut se lever prendre la parole. Si j'avais su, j'aurais protégé ma soeur, ma petite cousine. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des solutions ou bien des mots que vous pourriez réutiliser dans vos sensibilisations de la bouche de ces jeunes gens?
Alors, on a souvent des jeunes qui disent « bah, moi, je vais en parler à ma famille, je vais demander à ma mère de ne pas faire subir ça à ma sœur. » Donc, on sent une réelle prise de conscience et une volonté de protéger des filles de leur entourage. Et c'est à ça que ça sert nos causeries, en fait. C'est à ça que ça sert ces espaces de discussion. C'est effectivement d'influencer positivement des jeunes personnes, des jeunes filles et des jeunes garçons pour que, à leur niveau, qu'ils puissent s'engager auprès de leur famille pour nous aider à éradiquer le fléau des mutilations sexuelles féminines.
Anita, quand on parle de l'excision, on pense à la tradition. Souvent même, il y a dans certaines communautés, on pense à la religion. Vous êtes heurté à pas mal de difficultés. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les résistances auxquelles vous avez eu à combattre?
Bien sûr. Pour moi, les traditions ne sont pas des violences ou les violences ne sont pas des traditions. C'est-à-dire que on parle beaucoup des mutilations sexuelles féminines comme si ce n'était que des traditions. Ce ne sont pas que des traditions, ce sont des violences. Ce sont des violences infligées aux bébés, aux petites filles, aux femmes qui continuent à vivre à travers le monde de ces violences. Il faut vraiment dissocier les traditions des pratiques néfastes. Les mutilations sexuelles féminines sont des pratiques néfastes qui ne sont ni religieuses, ni acceptables parce que ce sont des traditions. Les traditions qui sont néfastes doivent être éradiquées de nos sociétés. L'excision fait partie de ces traditions néfastes qui doivent être bannies de nos sociétés. Ce ne sont pas des traditions religieuses. En Guinée, énormément de femmes sont concernées par ces sujets-là. Ce sont à la fois les musulmanes, ce sont à la fois des chrétiennes et des personnes athées, puisqu'en Guinée, on a toutes ces confessions qui existent. Et lorsqu'on prend 97% des femmes, c'est quasiment toute la population qui est concernée. Ensuite, l'excision concerne d'autres continents. On a l'Asie qui est concernée par le sujet de l'excision. On a d'autres pays que les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment, qui sont concernés. On a le Pakistan, le Yémen. On a également des pays comme l'Angleterre, où il y a eu des condamnations récentes qui sont concernées par ce sujet. Donc, ce n'est pas tant la religion qui est concernée par ces pratiques. C'est la société elle-même qui est concernée par ces pratiques. L'Égypte est l'un des pays qui pratique le plus l'excision. Et pourtant, à côté, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ne sont absolument pas concernés par ce fléau. En tout cas, ce n'est pas pratiqué dans ces pays-là. Et c'est là qu'on comprend que ce n'est pas religieux, ce n'est pas écrit dans le Coran ni dans d'autres livres religieux. Et ça concernait aussi des pays comme la France, comme l'Angleterre, d'autres pays européens qui ont pratiqué aussi l'excision, en tout cas une forme de mutilation pour pouvoir guérir de l'hystérie et de la masturbation féminine. Jusqu'au XXe siècle, la France et d'autres pays européens pratiquaient encore ces violences sur les femmes pour avoir le contrôle sur leur corps et sur leur sexualité. Donc c'est pour vous dire combien ce fléau, combien ce contrôle de la femme est répandu et a toujours été répandu à travers nos sociétés, que ce soit en Europe ou même en Afrique.
Là, je comprends bien. Anita, après plusieurs années que tu travailles dans ce secteur, sans doute un jour tu t'es retrouvée face à un cas qui t'a marqué. Tu peux revenir sur un cas particulier qui t'a marqué durant ces années?
Alors, un cas particulier qui m'a marqué, c'est un jeune homme que je rencontre lors d'une intervention et qui vient me voir et il me dit... moi je vais faire exciser ma fille, je vois pas pourquoi vous continuez à militer pour ça, c'est peine perdue, puisque de toute façon ça va continuer, on continuera à exciser nos filles. Et donc je prends le temps de l'écouter, j'échange avec lui en lui disant que l'excision n'est pas bien, je parle des autres types de mutilation sexuelle féminine, puisque lui ne parlait que de l'excision. À la fin de notre discussion, il me dit « Oh, je suis désolée pour tout ce que je viens de dire. Vraiment, je suis vraiment désolée parce que je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que les femmes étaient autant violentées. Je ne savais pas que tout ça consistait une violence, des violences vers les filles. Et en fait, moi, je pensais que l'excision, c'était juste une tradition festive. Et donc, moi, ma fille, elle ne subira pas ça. Ma fille n'aura pas ça. » Et il met la main à la poche, il me donne de l'argent, il me dit « Je voudrais contribuer à ce que vous faites. Bravo et merci pour ça. » Et vraiment, à chaque fois que je reparle de cette histoire, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis et je me rends compte que mon travail a du sens, que le travail des associations comme la nôtre a du sens et qu'il faut qu'on continue en fait. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas réellement ce que sont les mutilations sexuelles féminines. Il y a un jugement sans une réelle connaissance de tout ça et notre travail vaut la peine, vraiment.
Je vais rebondir juste sur ce que tu viens de dire pour te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue ta force pour continuer cette lutte?
Eh bien, ce qui constitue ma force, c'est de voir des familles qui changent d'avis. C'est de voir des filles protégées, notamment ici en France, par l'asile. C'est de voir des familles contentes lorsqu'on arrive justement à protéger leurs filles du risque d'excision. C'est de voir cette nouvelle génération consciente des risques que peuvent être les mutilations sexuelles féminines. Tout ça me donne de la force. C'est des personnes qui sont autour de moi. Toutes ces associations engagées me donnent de la force. Et donc, je sais que je continuerai encore bien des années parce que, à côté de toutes ces difficultés d'éradiquer ce fléau, il y a aussi toutes ces forces humaines et toute cette force associative engagée qui nous pousse à continuer.
D'accord. Anita, on va prendre juste quelques minutes pour écouter de la musique avec nos auditeurs. Et là, sur ce, tu leur proposes d'écouter du Salif Keïta. Donc, on revient dans un petit moment.
Acuérdame de la mamirina.
Chers auditeurs, merci de rester pour écouter notre podcast aujourd'hui qui accueille Anita Traoré, qui est une activiste engagée dans tout ce qui est lutte contre les violences féminines. Anita, si on se tournait un peu vers l'avenir, donc on change un peu de regard, selon vous, que faut-il changer pour faire reculer durablement l'excision, tant en Afrique mais aussi en Europe?
Ce qu'il faut changer pour faire reculer le fléau des mutilations sexuelles féminines, c'est de mettre les moyens. C'est de mettre les moyens politiques, c'est de mettre les moyens humains, c'est de donner la force aux associations et aux institutions qui se battent encore aujourd'hui pour éradiquer ces fléaux. Les politiques doivent s'engager aux côtés des associations pour une lutte commune. Dans beaucoup de pays, ce sont essentiellement les associations qui militent encore contre les mutilations sexuelles féminines. Or, les pouvoirs publics ont ce pouvoir d'agir. Il faut agir maintenant, c'est pas demain. Ça fait déjà des années qu'on parle de ces sujets et ça fait des années qu'on voit que ça n'avance pas tant que ça. Parce que les pouvoirs publics ne sont pas toujours aux côtés des femmes. Les pouvoirs publics ne sont pas toujours aux côtés des associations qui militent. Et ça, il faut ce travail commun, il faut cette lutte commune afin de pouvoir mutualiser nos forces pour pouvoir effectivement demain, dans 5 ans, dans 10 ans, voir une réelle possibilité de changement de nos pratiques finalement dans nos pays, dans nos communautés, dans nos villes et pour nos filles et pour nos petites filles demain.
Tout à l'heure, tu as donné l'exemple d'un monsieur qui défendait l'excision et que tu as réussi à convaincre par tes explications. Aujourd'hui, selon toi, quel est le rôle que les hommes peuvent jouer pour cette lutte?
Le rôle que les hommes peuvent jouer dans cette lutte, c'est de comprendre d'abord, de se renseigner, de s'informer sur ce fléau. Les hommes sont, comme les femmes, la moitié de l'humanité. Lorsque un fléau touche toute une moitié, notamment les violences faites aux femmes, touche la moitié de l'humanité, les hommes doivent s'y intéresser. Les hommes doivent être aux côtés des femmes pour combattre les violences, parce que une femme violentée, c'est une femme diminuée. Une femme qui subit de la violence, c'est une femme qui n'aura pas toute la capacité de pouvoir se défendre, de pouvoir défendre ses enfants et de pouvoir défendre finalement sa communauté. Et pour moi, il est essentiel que les hommes se renseignent, que les hommes soient aux côtés des femmes pour pouvoir ensemble militer pour une égalité des chances, pour une égalité. Et ils ont, enfin, je veux dire qu'ils ont un rôle essentiel. Si on prend un pays patriarcal, mais vraiment guidé par la religion, par tout ce qu'on peut dire, l'homme, c'est le chef de famille dans nos communautés. L'homme, c'est celui qui prend la décision de beaucoup de choses. Si les hommes venaient à dire, moi, je ne veux pas d'une femme excisée, par exemple, ou moi, je ne veux pas que ma fille soit excisée, peu importe la tradition et ce qu'il y a derrière, je refuse que ma fille soit excisée, je pense que déjà on gagnerait beaucoup, 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 beaucoup dans cette lutte, parce que les hommes sont ceux qui prennent la parole, ceux qui prennent les plus grosses décisions dans nos familles, et c'est en ça qu'ils ont la responsabilité aussi. Les hommes doivent s'engager aux côtés des associations et des femmes notamment, pour pouvoir espérer demain ne pas avoir des filles victimes d'excision, puisqu'ils ont ce rôle de décideur dans beaucoup de communautés et dans beaucoup de familles.
Merci beaucoup, Anita. Là, aujourd'hui, si on tend le micro à Anita, on te dit que tu as quelques minutes pour transmettre un message aux jeunes filles qui t'écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Que ce soit des filles excisées ou celles qui ont eu la chance de ne pas l'être.
Je leur transmettrais un message d'encouragement. Je leur transmettrais un message fort de sens, celui de prendre leur destin en main, de prendre la parole. Je trouve que vraiment la prise de parole des femmes aujourd'hui est essentielle. Les jeunes filles ont le pouvoir et doivent se saisir justement de cette possibilité d'avoir le pouvoir d'agir. Que ce soit au sein d'institutions, que ce soit au sein de groupes comme des associations. Les jeunes filles doivent aujourd'hui prendre leur place. Il ne faut pas que les jeunes générations de filles et de femmes hésitent à prendre leur place. Notre parole, notre voix compte, nos places doivent exister, on doit arracher nos places pour que nos vies changent. On doit être où il faut, on doit être au premier plan. Les hommes ont beaucoup trop souvent été au premier plan. C'est aujourd'hui aussi aux femmes et aux filles de prendre cette place de premier rang pour travailler pour nous-mêmes et pour espérer aujourd'hui changer les choses.
D'accord. En tout cas, c'est assez fort comme message. J'espère juste que les jeunes filles vont écouter et ils vont prendre au mot. Anita, récemment, il y a eu un événement qui s'est organisé au niveau de Tours et ses environs. Beaucoup de personnes en ont entendu parler. Libre et entière a été un moment fort, riche en témoignages, en échanges et en engagement autour de la lutte contre ces mutilations. Dans cette émission de podcast, j'aimerais bien te donner la parole pour que tu puisses revenir sur ces expériences, mais aussi sur la table ronde dans sa généralité.
Alors, Libre et Entière, c'est un événement que notre association organise depuis 4 années maintenant. Chaque année, au mois de février, effectivement, nous mettons en place cette conférence qu'on a appelée Libre et Entière. Ça prend tout son sens dans la lutte que nous menons depuis quelques années. Libre et Entière, c'est un espace justement... C'est un espace de parole qui permet aux femmes concernées, aux institutions et aux associations d'être à un endroit ensemble autour du 6 février, qui est la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Nous mettons en place cette journée pour informer, sensibiliser et former les professionnels de la santé aux mutilations sexuelles féminines. Donc ce sont des tables rondes, des prises de parole, des témoignages, mais également, cette année, nous avons eu une pièce de théâtre très puissante. Une puissante pièce de théâtre qui a parlé de sexualité, qui a parlé de plaisir sexuel, de plaisir féminin, qui a parlé également de la résistance des femmes et de la résilience des femmes qui sont victimes de violences depuis toujours. Et cette pièce de théâtre a beaucoup plu. Ça a été une journée très 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 forte. On a accueilli notamment Mariam Tendou qui a représenté l'ONU Femmes. On a aussi accueilli Oureiba qui est venue de la Guinée, des personnes qui sont venues de Paris. On avait sur l'une des tables rondes Oumou Koïta qui est la présidente de la fédération GAMS. Voilà, donc c'est une journée de mobilisation collective qui permet à la fois à notre association mais aussi à d'autres associations. On avait cette année 17 associations, notamment le planning familial, le centre LGBTQ+ de Tours. Il y avait également l'association Naya, enfin voilà, 17 associations qui ont été à nos côtés pour parler de leur engagement également. C'est une journée essentielle puisque chaque année on parle effectivement du 8 mars qui est très importante. On parle également de la journée du 25 novembre, mais très peu de cette journée du 6 février, qui est une journée essentielle pour nous, qui nous battons pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines.
Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre table ronde en 2027?
Il y aura effectivement en 2027 une cinquième édition de Libre et Entière qui aura lieu toujours à la mairie de Tours pour rassembler de nouveau les personnes engagées sur ce sujet.
Musique.
Wow.
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Ouais. Pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord. On peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure. Le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imani. Banal. T'es pas obligé d'être Michelle Obama. T'es pas obligé de vouloir être mère. T'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres. N'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes. Dites à ces messieurs, c'est bien prétentieux prendre la vie à celle qui la donne. Parfois le bonheur a un goût amer. Parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là. Même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne, les trois à la fois. Tu sais comment tes grand-mères étaient grandes. Tu sais qu'elles nous manquent et qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes. C'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et si te demandent que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grande, Imani.
Anita, là on est toujours dans les perspectives. Si nous nous retrouvions dans 10 ans, qu'aimeriez-vous pouvoir nous dire sur le chemin parcouru par l'association et sur la lutte contre l'excision?
J'aimerais dans 10 ans pouvoir dire que l'excision n'existe plus. J'aimerais dire ça, honnêtement, j'aimerais dire ça. Mais je ne suis pas sûre que dans 10 ans, on arrive à éradiquer totalement le fléau des mutilations sexuelles féminines. Mais j'ai espoir, j'ai très bon espoir que dans 10 ans, qu'on arrive à bousculer les mentalités. Et dans 10 ans, j'aimerais pouvoir vous dire que l'excision existe encore, mais très peu. J'aimerais pouvoir vous dire que la jeune génération ne fait plus exciser ses enfants. Je suis de cette nouvelle génération. Je suis de cette génération qui ne fera pas exciser ses enfants, ses filles. Dans 10 ans, ma fille, ma première, aura 19 ans. Et je sais que dans 10 ans, elle ne sera pas excisée. Je sais que dans 10 ans, les filles de mes amis et des personnes qui m'accompagnent et qui me suivent ne seront pas excisées. Et je pourrai, dans 10 ans, vous dire que ce sera une victoire, une grande victoire de voir une jeune génération non excisée. Je suis très, très, très fière justement de cette nouvelle génération de jeunes filles. On a une nouvelle génération de jeunes femmes africaines qui sont engagées, des féministes africaines qui sont engagées dans leurs pays respectifs. Je pense à la Ligue des droits des femmes en Côte d'Ivoire, des femmes, des jeunes femmes très engagées sur tous ces sujets de droits des femmes. En Guinée, on a le club des jeunes filles leaders de Guinée. On a des femmes, des jeunes filles très engagées. Et pour moi, c'est une fierté de savoir qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on a voilà, tous ces mouvements féministes qui s'engagent et qui contribuent à lutter contre les violences faites aux femmes. Et je les salue et je leur dis merci et bravo pour tout le travail mené au sein de nos communautés et à travers les réseaux sociaux, parce qu'on minimise beaucoup le travail que les féministes font à travers les réseaux sociaux, mais le web activisme est un réel travail. C'est du temps, c'est de l'énergie et c'est beaucoup beaucoup d'éducation finalement à travers les réseaux sociaux pour permettre une prise de conscience sur les sujets qui nous touchent et qui nous concernent toutes et tous. Toutes ces féministes sont présentes sur les réseaux sociaux. Elles se font insulter, elles se font parfois agresser verbalement, elles sont même harcelées parfois, mais ce travail de réseaux sociaux est nécessaire en fait, parce qu'on a un public qu'on touche. On a aujourd'hui, tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça que c'est essentiel aussi d'avoir ce travail de réseau, d'avoir ce travail de web activiste qui soit présente sur les réseaux aussi pour sensibiliser et informer une certaine catégorie de la population qu'on n'a pas forcément, qu'on ne touche pas forcément sur le terrain. Et donc ça, ce travail-là, on a beau dire que les réseaux sociaux ne sont pas bien, c'est vrai, d'une autre manière. Mais c'est essentiel qu'on soit effectivement sur ces réseaux-là pour continuer à éduquer une certaine population.
Anita, merci beaucoup vraiment pour tout ce que tu viens de dire. On sent que ce sont des paroles puissantes qui viennent du cœur aujourd'hui. C'est juste que la femme qui a été victime ou la petite fille qui a été victime d'excision ne doit pas sentir de l'handicap en fait. Elle ne doit pas avoir honte de s'exprimer ni de dire que j'ai été victime d'excision parce que c'est une tradition, c'est une culture qu'on a trouvée, néfaste que ça soit sur nous, sur notre dignité, mais on peut juste avancer, continuer de lutter. Aujourd'hui, si tu étais face à une femme timide qui a été excisée, qui refuse d'en parler, qu'est-ce que tu lui dirais comme message?
Je lui dirais que l'excision n'est pas une fatalité. Je lui dirais que ce n'est pas à elle d'avoir honte, c'est à la société d'avoir honte. Je lui dirais qu'elle doit prendre son temps, qu'elle est totalement valable et qu'elle a la possibilité, qu'elle peut en parler quand elle voudra en parler et qu'il n'y a aucune urgence à parler. Que nous, qui prenons la parole, qui en avons envie et la possibilité de le faire, qu'on le fait pour elle. Mais que si demain, elle avait envie de parler, qu'elle n'ait aucune honte de parler de son excision, que la honte a déjà changé de camp et que ce sont des personnes qui lui ont fait subir ça, d'avoir honte et pas elle. C'est aux personnes qui lui ont fait subir cette pratique d'avoir honte et pas elle et que sa parole vaut la peine quand elle pourra, quand elle voudra, qu'elle prendra la parole au moment venu.
Donc en deux mots,
Je lui dis que elle est victime et que la honte a déjà changé de camp et qu'elle prendra la parole quand cela lui sera nécessaire.
Anita, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Au mot de la fin.
Merci beaucoup vraiment à vous de m'avoir reçu dans votre podcast. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. Un mot de la fin, c'est continuons. Continuons ensemble. Collectivement à militer pour les droits des femmes, pour éradiquer tous ces fléaux qui sont très marqués dans notre société. Continuons ensemble à militer contre les violences faites aux femmes. C'est essentiel de le faire pour nous, pour nos filles et pour toute la société.
Merci beaucoup Anita Traoré pour ce courage, votre engagement et pour cette parole précieuse que vous avez partagée aujourd'hui. Votre combat nous rappelle que derrière chaque statistique, il y a des vies, des histoires et des femmes qui se battent pour leur dignité et leur liberté. Dans Mille Paroles d'une Humanité, nous croyons profondément que l'écoute peut changer les regards et ouvrir des chemins de transformation. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous, car parler de ces sujets est déjà une manière d'agir. À très bientôt pour un nouvel épisode de Mille Paroles d'une Humanité. Merci.